franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
En direct de nouveau, chers écouteurs, après les rediffusions de cet été, j'allais dire en live, si mon invité Alain Corbin, bonjour.
Bonjour.
Était aussi attentif à la langue française. Et puis, il faut commencer en disant que sous nos pieds, il y a nos morts, et au-dessus de nos têtes étendu le ciel de nos héros, puisque le sujet aujourd'hui, c'est la fabrique des héros de l'histoire de France. Comme le système solaire, le ciel de nos héros est composé de constellations. Les héros, ça fait système, comme les étoiles. Ils sont configurés les uns avec les autres. Et comme les étoiles, il arrive, Alain Corbin, qu'ils s'éteignent. Mais si les héros meurent, c'est de n'être plus admirés. Si nous cessons de les considérer, c'est comme si nous les effacions de notre ciel. Alors Alain Corbin, je ne vous présente pas, historien du sensible, l'ouïe, l'odorat, les gestes vous passionnent. Vous auriez bien aimé faire votre thèse sur les gestes.
Ah oh oui, bien sûr.
Et à l'époque, les mandarins n'auraient pas accepté ce sujet. Vous êtes un historien défricheur, on vous doit des études fondatrices sur les loisirs, les rivages, la sexualité. Bientôt, au mois d'octobre, vous participez à une somme sur la virilité. Mais aujourd'hui, vous démontez les ressorts de nos admirations dans un livre qui s'intitule « Les héros de l'histoire de France, expliqué à mon fils ». Au mois d'août, tous les ans, un sondage paraît qui indique quels sont les personnages préférés des Français. 1, Yannick Noah et 4, Simone Veil. Vos sources, ce n'est pas des sondages de ce genre?
Non, parce que le sondage auquel vous faites allusion porte sur la question suivante. Quelles sont les personnes préférées des Français? Pas forcément les héros. En revanche, dès le 19e siècle, il y a eu des sondages d'opinion sur les héros. Le Petit Parisien, par exemple, au début du 20e. L'IFOP, en très très gros sondage, en 1948 et 1949. C'est très intéressant parce que ça permet de faire le point sur ce que les Français admiraient au milieu du 19e siècle, du 20e, pardon. Mais au 19e siècle aussi, il y avait peut-être de vagues enquêtes. Et puis des historiens comme Christian Amalvi ou Maurice Agulon ont répertorié les héros qui semblaient être les plus souvent cités dans les ouvrages, par exemple, ou qui avaient fait l'objet du plus grand nombre de livres.
Amalvi qui publie un livre un peu semblable au vôtre, plus grand encore, dont on trouvera la référence sur notre site. Le site de France Inter est l'objet d'une grande rénovation en cette rentrée. Alors, il y a les archives, les sources. Vous dites quelles elles sont, mais il y a aussi vos archives intérieures, enfin vos souvenirs. Vous avez rendu célèbre un village qui s'appelle Lonlay-l'Abbaye, qui était connu pour ses biscuits, qu'il est maintenant, grâce à vous, pour ses cloches.
Toujours célèbre pour ses biscuits, je crois.
Et puis, alors, il s'y passait des représentations auxquelles enfant vous assistiez.
Ou même adolescent et même étudiant, c'est tout à fait étonnant. Durant les années 50, toute la commune, en quelque sorte, vibrait à des représentations théâtrales historiques. Je me souviens donc, ça doit être à peu près 1954-1955, d'une représentation de Jeanne d'Arc qui mobilisait la totalité pratiquement des artisans et des agriculteurs, si vous voulez, en âge de jouer sur ce théâtre. Et un succès fou, ces représentations de Jeanne d'Arc. Les gens venaient de tout le département pour voir Jeanne d'Arc. Il y avait même deux Jeanne d'Arc parce qu'il y avait une doublure. Et quand on avait vu Jeanne d'Arc avec l'une, il fallait voir Jeanne d'Arc avec l'autre.
Jeanne d'Arc, à Lonlay-l'Abbaye, c'est dans l'Orne. Alors, c'est une sainte. Le saint, la sainte, c'est une des quatre catégories de héros que vous définissez.
Pas exactement. C'est-à-dire que c'est une des quatre catégories, puisqu'on ne peut pas dire que Saint-Louis n'est pas un héros et que Sainte-Jeanne d'Arc n'est pas une héroïne. Mais ce n'est pas le plus évident. Je veux dire par là que ce qui fait la grandeur du saint, c'est son silence, c'est son humilité, c'est son détachement, etc. Et ça, ça ne correspond pas à l'action d'éclat, à l'éclat. Dans le héros, il y a la notion d'éclat. Et de ce point de vue, le saint est contradictoire. Mais il a été, quelque chose a été repris par les romantiques qui est assez proche, en particulier par Victor Hugo, quand il parle de la grandeur du pauvre, magnitudo parvi. Et aujourd'hui, il me semble que c'est cette veine-là, l'héroïsation du petit, du pauvre, de la victime, qui est dans la perspective de valeur christique. Il me semble que, de ce point de vue, on peut considérer que la fabrication des héros d'aujourd'hui doit assez largement au modèle du saint.
Alors, les héros changent, mais les quatre catégories historiques que vous définissez ou que je tente de vous faire définir, c'est le saint, le héros romantique, vous l'avez dit. Il y a aussi l'homme utile au bien public, je ne sais pas, Denis Papin, Pasteur, ça, c'est le héros des Lumières. Et puis, il y a le héros plutarchéen, c'est-à-dire celui qui correspond au modèle de Plutarque, la vie des hommes illustres. Il fait des actions d'éclat, c'est par exemple un chevalier sans peur et sans reproche, Bayard. Avant le sacré François Ier, le chevalier sur un champ de bataille, il est lui-même Bayard de Pontcharrat, sacré auparavant en 1496, chevalier par le prédécesseur de François Ier, Charles VIII.
En raison de votre bravoure montrée en ce jour pour notre armée, nous, Charles VIII, roi de France, vous faisons chevalier. Vous nous jurez ainsi fidélité et allégeance pour défendre notre droit divin sous le nom de chevalier Bayard.
Sire, j'ai une humble requête, sire.
Eh bien, faites, mon ami, faites. On ne peut rien refuser à quelqu'un que l'on surnomme déjà chevalier sans peur et sans reproche.
Oui, confier au rôle de Charles VIII et de Patrick et de Bayard, Patrick Timsit et Gérard Jugnot, c'est déjà le signe qu'on ne prend plus le chevalier sans peur et sans reproche. C'est un film de 88. Évidemment. Cette date-là, tout à fait au sérieux.
Évidemment. Mais pourtant, ce chevalier Bayard, il est dans les 4 ou 5 héros les plus connus vers 1870. Il est encore présent au milieu du XXe siècle dans l'enquête de l'IFOP. Et je crois que tous les petits garçons et petites filles des générations 1940-1960 ont entendu parler du chevalier sans peur et sans reproche, d'autant qu'il avait un contraire, si je veux dire, un méchant avait face à lui, le connétable de Bourbon, lui aussi, tout autant oublié que le chevalier Bayard sans peur et sans reproche. Ça,
alors, si on parlait anglais, on dirait il y a les in, les out, il y a ceux qui disparaissent du classement et ceux qui rétrogradent du classement. Exacte symétrique peut-être du chevalier sans peur et sans reproche, parce qu'il appartient lui aussi à la petite aristocratie batailleuse et attentive à la légitimité de la nation, le clerc de Haute-Cloque. Alors là, on est bien sûr, beaucoup plus près de nous. En 1969, le président de la République, c'était Georges Pompidou, inaugurait Porte d'Orléans, un monument au général Leclerc. On peut préférer le monument de Pontcharrat dans l'Isère, dédié à Bayard, mais ça, c'est une autre affaire.
Que Leclerc ait été un chef, il suffira aux générations à venir, pour s'en convaincre, d'observer avec quelle fidélité si émouvante tous ceux qui ont eu l'honneur de servir dans la 2e division blindée ont conservé son souvenir. C'est pourquoi ce monument élevé au plus pur des héros de la France libre, en présence de Madame la Maréchale Leclerc, en présence des anciens de la 2e DB, est le plus sûr et le meilleur hommage que nous puissions rendre à la grande mémoire de Leclerc.
Alors, le monument de Leclerc, actuellement, est un peu en chantier, environné de palissades. Et vous dites qu'il y a un recul de ce type de personnage.
En écoutant le président parler du plus pur héros de la Seconde Guerre mondiale, etc., je ne suis pas certain que dans l'esprit des jeunes gens de 12-13, ce qui est enseigné à l'école, ce soit le plus pur. Je crois plutôt que ce sont les justes qui ont sauvé des enfants, que c'est Jean Moulin, etc. Donc il y a eu effectivement un basculement. Mais ce basculement, il est évident, c'est-à-dire le recul d'abord de la culture de la victoire. profit de la culture de la défaite. On va encore nous casser les oreilles avec Waterloo en 1815, après nous avoir parlé de Trafalgar, et on ne nous a absolument pas parlé ni de Wagram, ni de dans l'ordre, si vous voulez, ni d'Iéna, ni de Friedland, ni de Wagram. Donc il y a.
Et en 2005, on a renoncé, Villepin, Premier ministre pourtant, à célébrer Austerlitz.
Donc il y a un déclin de la culture de la victoire. Mais en même temps, tout ce qui est militaire a souffert, je crois, des guerres coloniales qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Parce que ces gens comme Delattre, de Tassigny, etc., tous ces grands héros de 40-44, ou de 42-44, 45, ont pâti de leur présence, il me semble, dans ces guerres coloniales.
C'est aussi l'esprit d'aventure qui attire peut-être moins.
Oui, alors là, c'est encore autre chose, parce que l'esprit d'aventure ne se confond pas avec la valeur guerrière. Cette valeur guerrière, parce que j'y reviens, a aussi pâti du fait que c'est la victime qui retient le regard. Par exemple, en ce qui concerne le 14-18, ce n'est plus Foch, alors que Foch a connu une gloire intense en 1919 et dans les années suivantes. Ce n'est plus Foch, ce n'est plus Joffre, ce n'est plus Pétain, ça c'est autre chose. Mais enfin, ce n'est plus Joffre, c'est le poilu. C'est le poilu. Et encore, la tendance serait de dire le poilu qui n'en voulait pas, en quelque sorte. Le
mais
poilu victime absolue. Alors, c'est plus le chef.
Ce n'est plus chef. Je reviens à mon idée que l'idée d'aventure recule.
Ah oui.
Ce n'est plus non plus Guynemer.
Ah voilà, ce n'est plus Guynemer, ce n'est plus Fonck, ce n'est plus Mermoz, ce n'est plus Saint-Exupéry. Encore que Saint-Exupéry survit un peu à cause de la littérature. Oui, ça a été étudié par un historien qui s'appelle Sylvain Venner. La notion d'aventure avec un A majuscule, c'est quelque chose qui va de la fin du 19e siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que ces héros aventuriers, c'était des gens qui risquaient la mort, pour sentir leur moi vibrer, parce qu'ils étaient aussi habités par de la littérature. Ils allaient sur des confins du monde prendre des risques, etc. Et tout ce modèle-là, qu'on retrouvait dans l'armée avec justement les premiers aviateurs, parce que les premiers aviateurs, c'était des bellistes, si vous voulez, des gens comme Guynemer. Donc ce modèle-là a été disqualifié au profit d'une aventure sans risque, qui est l'aventure aujourd'hui, sur des zones où on ne risque rien avec le téléphone portable, où on est suivi par des antennes de toutes sortes.
Comment se fait et quand se fait l'inflexion 1962, c'est le moment où vous faites la guerre d'Algérie, c'est pas l'aventure dans le désert à la Bournazelle, c'est le moment aussi où Jacques Brel chante la statue, la fabrique des héros, ça passe par les monuments, on parlait de Bayard à Pontcharrat, on parlait de Leclerc à la porte d'Orléans, là c'est une statue qui parle et qui dit ses pensées intimes.
J'aimerais tenir l'enfant de Saint-Lô qui a fait graver sous ma statue. Il est mort comme un héros. Il est mort comme on ne meurt plus. Moi qui suis parti faire la guerre parce que je m'ennuyais tellement. Moi qui suis parti faire la guerre pour voir si les femmes des Allemands. Moi qui suis mort à la guerre parce que les femmes des Allemands. Moi qui suis mort à la guerre de n'avoir pu faire autrement. Je l'aimerais là et j'aimerais que mes enfants ne me regardent pas.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Alain Corbin, la fabrique des héros de l'histoire de France, à propos d'un livre que vous venez, Alain Corbin, de publier aux éditions du Seuil. Le héros aimerait que ses enfants ne le regardent pas. Et puis, les descendants des héros scrutent aussi tous les points d'ombre de la vie du héros. Si les héros descendent de leur socle, c'est la faute des historiens.
Oui, au fond, quand on admirait Bayard, on ne connaissait pas Bayard. On connaissait une ou deux anecdotes. Il avait été d'un courage admirable en défendant le pont du Garigliano, etc. Mais on n'allait pas chercher dans la psychologie de Bayard. On ne psychiatrisait pas Bayard. On ne soumettait pas au divan de la psychanalyse. Alors qu'au contraire, depuis le début du XXe et même la fin du XIXe siècle, les savants se sont employés à chercher les failles dans les héros. Et quand on cherche les failles, on en trouve, évidemment. On a psychiatrisé l'histoire de France, et en particulier les héros. Donc, ils se sont tous effondrés.
Tenez, dans votre enfance, dans l'Orne, vous mettiez sur les murs de votre chambre d'adolescent, non pas un portrait de Jeanne d'Arc, mais des portraits des libérateurs de la Normandie. Par exemple, Patton.
Oui.
Et on vient de publier une biographie de Patton. Patton qui dit à ses troupes « Allez-y les gars, vous allez violer leurs femmes, vous allez égorger leurs enfants. »
Oui, c'est ça. Mais ce que dit Jacques Brel aussi montre un basculement. C'est-à-dire que c'est l'histoire des horreurs de la guerre qui s'est développée. On pourrait peut-être faire remonter ça à la fondation de la Croix-Rouge sur le champ de bataille de Solferino par Dunant. C'est-à-dire cet homme qui est pétri d'horreur à la vue de ce charnier et qui fonde la Croix-Rouge. Et depuis, ça n'a jamais quitté. Il y a toujours eu une tradition de dénonciation des horreurs de la guerre. Il y a déjà eu d'ailleurs Hélot sous le Premier Empire. Mais ça s'est beaucoup accentué entre les deux guerres, le J'accuse.
On est passé de la crucifixion à la Pietà.
Voilà.
C'est-à-dire au regard de la femme. C'est aussi le fait que
oui.
Les valeurs de virilité que vous allez étudier dans trois grands volumes, au Seuil aussi, au mois d'octobre, sont questionnées.
Oui, la virilité, c'est extrêmement compliqué. Ça dépasse de beaucoup l'opposition à la femme. C'est une vertu. La virilité, c'est une vertu de force, d'énergie, de dévouement. De ne pas supporter le défi, d'exercer sa domination sur l'ennemi, mais aussi de l'exercer au travail, dans l'atelier, de l'exercer en sport, de l'exercer contre le colonisé, etc. Alors, la domination sur la femme entre dans cet ensemble, mais simplement comme un élément.
Si on parlait un peu des héroïnes féminines, instituteur de Mortorol, dont vous avez reconstitué les conférences qu'il faisait en 1895 dans son village près de Limoges, adorait Charlotte Corday. Je voudrais qu'on parle plutôt de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, elle est portée par le succès, parce que la fabrique des héros, ça tient aussi aux industries culturelles, au grand tourisme de masse, par exemple celui qu'on pratique à Versailles.
Je m'appelle Charles. Si vous avez des questions, allez-y.
À Versailles, les hôtes défilent en Bermuda sandales. On se goinfre d'images pour fabriquer ses souvenirs.
You never leave your camera.
Vous ne quittez jamais votre caméra ?
Bien sûr que non, il y a trop de choses à voir.
Je suis ici pour peu de temps et je veux apprendre le plus possible.
Le touriste est pressé, le touriste veut tout, le touriste paye, il exige. Au d'un certain temps, moi je comprends ces gens qui nous envoient balader.
Alors, qui est qui ? Qui vient d'où ? Qui va où ? À Versailles, le flux des touristes ne se tarit jamais.
Le château du Roi Soleil est victime de son succès.
Trouver des trucs choquants, des gens qui collent des chewing-gums, qui grattent sur les murs, un truc comme ça. Je pense que c'est surtout les touristes qui font aucun respect, quoi.
Pour limiter la dégradation, il faut avant tout canaliser le public.
Les foules de visiteurs qui viennent à Versailles viennent essentiellement pour voir la Galerie des Glaces, la chambre de Louis XIV et la chambre de Marie-Antoinette. Ce sont les trois phares.
La chambre de Marie-Antoinette, trois phares dans la demande, dans la Sainte Trinité. Marie-Antoinette et de Marie-Antoinette. Qu'est-ce qu'on veut savoir ? Est-ce qu'elle n'a pas été victime ? Vous employiez le mot tout à l'heure, Alain Corbin, d'un procès biaisé. Victime des rumeurs infâmes qui l'accusaient de relations sexuelles troubles avec le dauphin.
Citoyen président, permettez-moi de vous faire remarquer que l'accusé n'a point répondu sur l'acte dont a parlé le citoyen Hébert. Vous savez, à l'égard de ce qui s'est passé entre elle et son fils.
Antoinette, vous avez entendu la demande du juré ?
Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à une pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. Le peuple ne sera donc jamais là, mes frères.
Évacuez
Professeur, cette histoire du petit capet, je vous préviens que je n'en parlerai pas demain en résumant les débats.
Cela pouvait prouver la mentalité de l'accusé. Nous avons les dépositions du louveteau. Il a maintenu ses dires devant sa tante.
Un enfant de 8 ans. C'est absurde.
Toutes nos méthodes sont à changer.
La caméra explore le temps, 1958. Début, peut-être, d'une esquisse de réhabilitation d'une héroïne au destin incertain. Une anti-héroïne qui peut devenir une héroïne.
Oui, ben c'est toujours le cas. Mais je pense qu'elle est en train vraiment de devenir une héroïne. C'est-à-dire que, traditionnellement, Marie-Antoinette appartient à ce réseau de femmes venues de l'étranger qui ont été mauvaises pour la France. Isabeau de Bavière, Catherine de Médicis, Marie-Antoinette, en attendant Matahari, si vous voulez. Donc, il y a là quelque chose qui a tenu assez longtemps. C'était la harpie sous la Révolution. Et avant la Révolution, c'était la débauchée excessive. Donc, il y a des pamphlets terribles. Tout ça a pesé sur la mémoire, en quelque sorte, de Marie-Antoinette. Et puis, le fait qu'aujourd'hui, on soit plus attentif, et avant tout attentif aux victimes, à ceux qui ont souffert. Marie-Antoinette, alors, elle a beaucoup souffert de la mort de son fils aîné, souffert de voir son mari décapité, elle était elle-même malade, les accusations qu'on portait contre elle, etc. Donc, mélangé au sang de la guillotine qui est de moins en moins toléré, c'était évident. Donc tout ça conduit à une certaine réhabilitation. Et puis, le film de Sofia Coppola récemment.
L'exposition.
Oui, ça fait de Marie-Antoinette quelqu'un d'autre. Ça fait une héroïne people, en quelque sorte.
Et dans la série Les Belles Étrangères, qui ont gouverné la France, peut-être Eugénie.
Ben Eugénie,
et
oui.
Et carrément le couple impérial, Napoléon
III. Oui, oui,
et Eugénie.
Il est en tension aussi dans le domaine de la réhabilitation ou de l'héroïsation. Moi, je vois très, très nettement que Napoléon III sera héroïsé parce qu'on lui reprochait 3 fautes morales. On lui reprochait le parjure, on lui reprochait la fête impériale, la débauche et puis la honte de Sedan. Mais aujourd'hui, la honte de Sedan, ça n'inquiète plus hier. La débauche, je dirais que à la limite, la fête impériale serait plutôt un plus. Donc vous voyez, il y a certainement une relecture du cas de Napoléon III, mais ce n'est pas le seul. On ne peut pas le considérer encore comme un héros. Il n'apparaît pas comme tel sur la liste lors des sondages.
C'est le charme du passé. On ne peut jamais prévoir ce qu'il va devenir. C'est pour ça, Alain Corbin, que vous êtes historien. Néanmoins, il y a des héros hors concours. Les ressorts de l'admiration semblent fonctionner à leur sujet pour l'éternité. On a parlé du neveu, parlons de l'oncle, de Napoléon. Serions-nous tous des demi-soldes, des chômeurs licenciés de l'Empire, comme le colonel Chabert et son maître d'armes Roland Blanche?
Bonjour, messieurs, la droite attaque la gauche. Les cuisses, plus souple sur les cuisses.
En droit. Foutre de cul. Tu vas tourner.
Attention, là. Bon mot, avant.
Halte au combat. Sergent, rappelez les règles.
On ne jure pas. On ne blasphème pas. On n'insulte pas. On ne parle pas des Bourbons ni de leur clique. On vénère l'Empereur et on attend son fils. Tout entorse sera à l'amende.
Les pères sont morts au service de l'Empereur, nous éduquons leur fils.
C'est Depardieu, le film d'Angelo, Yves Angelo.
Oh, c'est évident que Napoléon est une telle exception qu'il est difficile de ne pas l'héroïser, même de la part de ceux qui évidemment, voient l'aspect guerrier et peuvent lui reprocher à l'ogre d'avoir fait tuer tant de gens. Mais c'est le héros romantique par excellence, c'est-à-dire le fulgurant. La fulgurance de celui qui épouse en quelque sorte son temps, mais en même temps voit l'avenir, le devine. Et qui est prêt à toutes les aventures, l'Égypte, l'Espagne, la Russie. Il ne voulait pas être exilé aux États-Unis. C'est-à-dire qui brasse le monde et qui a pesé énormément sur la littérature française, sur l'ensemble de l'histoire du 19e siècle. Et d'ailleurs, un siècle qui aime beaucoup se trouver des fondateurs. Dans le domaine de la musique, Beethoven, par exemple, joue ce rôle. Donc, moi, ça ne m'aide pas du tout que Napoléon Ier reste, en quelque sorte, en tête.
Le roman à lui tout seul, l'Iliade et l'Odyssée à lui tout seul, les pièces de Shakespeare à lui tout seul. Je peux vous citer Malraux, parce que je sais que vous aimez Sainte-Hélène. Pendant qu'à mi-voix, Napoléon parlait d'Austerlitz, les aigles de Sainte-Hélène tournoyaient dans l'encadrement des fenêtres de Longwood, ouvertes vers l'éternité.
Ben voilà.
Mais il y a un autre héros hors concours. Est-ce que c'est un héros ou un homme politique, De Gaulle ?
Ah, De Gaulle. Alors, De Gaulle, c'est une énorme question que j'ai essayé de résumer le plus vite possible. Parce que les ressorts de l'admiration de Gaulle ont bougé. Je pense que De Gaulle est beaucoup plus admiré aujourd'hui qu'il aurait pu l'être, d'après le sondage d'ailleurs, en 1949, hein, ou en 1969, quand il a quitté le pouvoir. Qu'est-ce qui aujourd'hui prime ? C'est d'abord, me semble, plusieurs éléments. L'homme qui a dit non. C'est-à-dire, c'est ça qu'on apprend aux enfants dans les écoles. Celui qui a refusé l'armistice, qui a continué la guerre, etc. Et le deuxième atout que l'on souligne, c'est l'homme qui a vu clair. Dès ce moment-là, il a vu que la Seconde Guerre mondiale n'était pas perdue, etc. Il avait une vision que n'avaient pas, évidemment, bien des Français. Je crois que c'est ce deuxième élément fort. Le troisième élément, c'est une énergie. Une énergie, l'homme qui n'abdique pas face à Churchill, face à Roosevelt, qui impose une vision de la France, qui est sa vision, etc. Alors, ce sont ces éléments-là qu'on met en avant. Mais il y aurait des éléments. Et puis aussi la hauteur. La hauteur qui est d'ailleurs symbolisée par son physique et son éloquence, qui est une éloquence 4e République.
Vous avez quand même du mal, hein, Corbin, parce que vous avez manifesté quand vous étiez jeune contre le général de Gaulle. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'on choisisse des héros qui ne soient pas nécessairement en accord avec les préférences politiques momentanées qu'on peut avoir si on interroge les leaders à l'université d'été de La Rochelle du Parti Socialiste? Ils vont vous dire « De Gaulle !» ou bien Harlem Désir va vous dire « Winston Churchill
oui, !» oui. Oui,
alors que c'est un fief colonialiste.
Oui, bon, ces contradictions sont humaines. Mais aussi, on pourra reprocher à De Gaulle. D'abord, on a vu le déclin de la culture de la victoire. C'est un militaire. Il aurait dû pâtir aussi. Il aimait bien se mettre en uniforme, hein, jusqu'à la fin de sa vie. Il a été enterré avec un véhicule militaire. Donc, ça aurait pu jouer contre lui. L'aventure algérienne, on pourrait trouver reproché. 58 aussi. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, mais qu'on n'a pas le temps de développer là.
Les héros absolus, il faut peut-être les chercher hors du panthéon français, Martin Luther King,
oui,
que Harlem Désir préfère, Winston Churchill. Mandela, mais le héros absolu en France.
Le jour où, au fort Montluc à Lyon, après l'avoir fait torturer, l'agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire puisqu'il ne peut plus parler, Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau. Pour la terrible suite, écoutons seulement les mots si simples de sa sœur. Son rôle est joué et son calvaire commence. Bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous.
Le vent de l'hiver qui soufflait sur la cérémonie du Panthéon, décembre 64.
C'est tout à fait caractéristique du renversement de l'admiration. Vous parliez de Leclerc tout à l'heure. Bien, Leclerc est moins admiré maintenant que ceux qui ont participé à la résistance, que ceux qui ont fait partie des armées de l'ombre que Jean Moulin symbolise. Et encore, troisième étape, si vous voulez, je pense qu'on va vers une admiration qui va s'adresser essentiellement aux justes, à ceux qui ont sauvé des enfants juifs, parce que c'est maintenant la collaboration, plus tellement, mais l'antisémitisme et la politique antisémite de Vichy qui prime.
Les héros de l'histoire de France, expliqués à mon fils, aux éditions du Seuil. Merci d'être des nôtres aujourd'hui, Alain Corbin. Sur la selle, demain, je parle de selle à dessin, un historien britannique qui circule à vélo à travers la France. Vous, quand vous faisiez votre thèse sur le Limousin, 3 départements, 900 communes, c'était en 2 chevaux ?
En 2 chevaux, oui, pas en vélo. Ouais. Ça monte.
pas Alain Corbin donner le nom de cet historien britannique, c'est drame. Rob, il faut que je donne le nom de Jacques Sigal, notre réalisateur. C'est notre première en direct de la rentrée. Il me reproche depuis le début de l'été d'avoir oublié de le citer à la dernière. Au mois de juin, Frédéric Martin, Franck Olivard avaient eux été mentionnés à leur place dans le panthéon de la marche de l'histoire, mais Meryl Moneghetti vient d'arriver dans notre équipe. Je la salue. Tout à l'heure, Mathieu Vidard, le bilan de l'été scientifique. Il est 14h, vous écoutez France Inter.